Vous écoutez France Culture, c'est le début d'une vie d'artiste. On irait au Québec sur le plateau de 1000 vaches, mais on commence en Chine.
Est-ce que vous reconnaissez le film dont on entend un extrait, Wen Rui?
Oui, c'est le bataillon féminin rouge.
Et qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir?
Je pense à ces femmes, à la lutte des femmes.
Et ce film, vous l'avez vu quand vous aviez quel âge?
La première fois que j'ai vu ce film, j'avais 8 ans ou 9 ans.
Et c'était quoi les émotions que vous avez ressenties?
Honnêtement, je ne m'en souviens plus.
Lorsque
je travaille sur la pièce Red, nous avons visionné ce film plusieurs fois. Donc, quand j'entends les sons de ce film, je me sens familier.
Et quand vous étiez une petite fille dans le Yunnan, que vous aviez 7-8 ans, c'était quoi les émotions que vous aviez quand vous avez commencé à apprendre le ballet du bataillon rouge des femmes?
Lorsque
j'ai commencé à apprendre la danse, c'était dans les années 70.
C'était 1973.
Je suis entrée dans une école de danse
et
nous apprenions les opéras modèles révolutionnaires, leurs extraits. Nous nous entraînions tous les jours sur ces danses, des danses comme le bataillon féminin rouge.
Faire vivre des collectifs, faut pas s'épuiser quoi. Faut pas abandonner en cours de route, sinon tu perds. Je sais pas s'il y a eu des défaites. Il y a eu des départs quoi. Il y a eu des transformations dans le groupe. Mais pour autant, c'est pas des défaites parce qu'un groupe, ça vit aussi.
Il est 23h et le quotidien, c'est de la mémoire. Les vêtements que l'on porte en ce moment, ça raconte déjà quelque chose. On est chaque jour témoin d'une histoire qui ne se raconte pas. Wen Rui travaille depuis plus de 20 ans à Pékin. Elle rentre dans les corps qui ne racontent rien, pour en sortir les tragédies, déterrer les autres corps enfouis, les générations qu'on a rangées là sans les interroger. Elle fait de l'archéologie, elle se lance dans des enquêtes. Elle met en mouvement le corps, mais à partir de la parole, elle fait raconter. Que ce soit son enfance, des femmes sur leurs accouchements ou des fermiers qui font face à des danseurs. Chacun se met à faire l'histoire à la première personne. Dans les années 70, Wen Rui a l'âge d'apprendre le bataillon rouge des femmes. Tout le monde connaît le ballet. La révolution culturelle met en scène des gestes à adorer, organise les émotions. Wen Rui réunit dans sa pièce Red trois générations de femmes. Celles qui l'ont dansé, celles qui l'ont appris et celles arrivées après. Elle voit la danse depuis le départ comme un lieu de vie. À Pékin, elle a créé un lieu alternatif, indépendant, pour de nouveaux collectifs pas commandités, spontanés, pour des histoires pas organisées, vivantes. Ce sont les lieux en transition, en train de se transformer, qui intéressent aussi Florent Tillon. Dans son film « Messa guerrillera », il va traquer, comme il dit, le contraire des passions tristes. C'est un road movie à travers la France avec une question : est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à sauver ici ? avec dans la tête la passion du futur, comme le dit une vieille publicité sur un mur. Florent Tillon filme quatre personnages quittant le plateau des Mille Vaches pour aller, ailleurs en France, trouver les lieux où il y a des corps et des idées révolutionnaires. Dans des réunions, on entend dire « on est là aujourd'hui, on est témoin qu'il se passe quelque chose ». On est témoin. Wen Rui a parfois demandé à ses danseurs de sortir dehors, d'aller à un carrefour, d'observer ce qu'il se passait et de revenir en salle de danse pour tout restituer. Elle est, depuis toujours, comme nous le sommes quand on reste éveillé, témoin qu'il se passe quelque chose. Wen Rui, chorégraphe chinoise, fondatrice de la compagnie indépendante à Pékin, Living Dance Studio, en 1994. Elle présente le spectacle Red au Théâtre des Abbesses, dans le cadre du Festival d'automne du 27 au 30 septembre. Elle est là avec la jeune danseuse Li Xinmin. Elles parleront français grâce à notre interprète ce soir, Chen Chen Wang. Il y aura la voix de Sifan Shao, jeune metteur en scène chinois, en train de traduire Jean-Luc Lagarce à Pékin. Il y aura Florent Tillon, cinéaste, pour son film Mesa Guerrillera, programmé par Benoît Hiquet à la Gaîté Lyrique à Paris le 27 septembre. À la musique, la Québécoise Safia Nolin sera là, dont l'album L'eau moins loup ressort en France et qui sera en France en concert le 12 octobre à Lyon et le 19 à Paris aux Trois Baudets. C'est une vie d'artiste sur France Culture, une vie qui, enfant, a connu une révolution.
Ce qui nous a frappé, c'est d'abord la multitude des personnes qui manifestaient, qui défilaient, qui chantaient, qui dansaient, qui portaient des portraits du président Mao et qui brandissaient dans leurs mains des petits livres rouges qui représentaient symboliquement l'œuvre complète du président Mao. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant, je trouve, c'était le public dans les contre-allées de cette immense avenue et la façon dont il réagissait. Ma foi, pas différent d'un défilé du 14 juillet. Il y avait un caractère un peu de fête foraine avec des stands où on pouvait acheter des pastèques, des rafraîchissements. Les gens étaient assis dans la rue, ils avaient l'air de plaisanter, ils applaudissaient, ils chantaient en chœur. Il y avait énormément d'enfants, des petits-enfants qui manifestaient. Et je me souviens en particulier de tout petits enfants qui étaient amenés par une jardinière d'enfants qui venait certainement d'une crèche proche, puis qu'ils étaient vraiment petits, peut-être 18 mois, ils étaient une douzaine, un petit tuban encore sur leurs jambes, et ils étaient tous bien ficelés pour ne pas les perdre. À un moment donné, à un signal d'elle, les enfants se sont mis à gazouiller une petite comptine. C'était « J'aime mon père, j'aime ma mère, mais j'aime encore mieux le président Mao ».
Wen Rui, en pleine révolution culturelle, vous avez 6 ans en 1966, donc vous êtes une petite fille qui doit dire « Bonjour président Mao » tous les matins à l'école. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que votre père décide de vous envoyer à l'école de danse parce qu'il a peur qu'on vous envoie à la campagne ?
Oui,
vous avez raison.
En 66, lors du commencement de la révolution culturelle, j'étais à l'école primaire. Dans l'arrondissement où je vis, il y a un rituel qui s'appelle saluer le président le matin, faire un bilan au président le soir. Concrètement, toute la famille doit envoyer un représentant pour saluer le président le matin. Et à 20h le soir, faire un bilan de sa journée au président. Le rituel commence toujours avec la lecture du petit livre rouge et puis une danse en hommage au président Mao. C'est un rituel quotidien.
Mon père
s'inquiétait beaucoup pour moi. Après 68, les jeunes étaient envoyés à la campagne. Les jeunes diplômés envoyés à la campagne. Mon père avait peur que je subissais le même sort. C'est ainsi qu'il avait décidé que j'allais apprendre la danse.
Une de vos premières pièces s'appelait Memory et était justement s'inspirer de votre enfance, des histoires de votre enfance. Memory, ça pourrait être le titre de beaucoup de vos pièces finalement, parce que le corps comme lieu de mémoire, c'est ça le départ de votre travail.
À partir
de 2008, notre studio a présenté notre première pièce, notre Living Dance Studio, essayait de répondre à la question suivante. Comment un corps tisse des liens avec l'histoire, avec la société?
Peu à peu,
nous avons créé d'autres pièces, toujours liées à la mémoire. Mais plus concrètement, la mémoire individuelle et ses liens avec l'histoire.
Là, pour la pièce Red que vous présentez au Festival d'automne, vous partez donc du ballet Le Bataillon Rouge des Femmes. Et pour vous, c'est de l'histoire, puisque vous l'avez appris à l'école dans les années 70. Pourquoi c'était important d'aller enquêter avant la pièce et d'aller poser des questions aux femmes qui, elles, l'ont dansée à l'époque ?
Parce
que pour moi, ces danseuses et danseurs d'origine
qui ont dansé ce ballet
représentent une forme d'histoire, une forme de mémoire individuelle du folklore. Dans les années 70, au début des années 70, toute la Chine adorait les opéras modèles révolutionnaires comme le bataillon féminin rouge et la jeune fille aux cheveux blancs. J'étais curieuse dans quel état ces danseurs interprétaient-ils le bataillon féminin rouge.
Ce qui m'a marqué,
je vais vous raconter une anecdote. Deux jours avant, nous étions en pleine répétition et deux jeunes filles étaient venues nous voir. Après avoir vu la répétition, elles nous avaient dit, l'une d'entre elles nous avait dit, ma mère avait dansé dans ce palais, l'autre dit, mais ma mère aussi.
Et vous, vous rêviez de le danser, de le jouer, ce ballet-là, quand vous étiez enfant ?
Mais bien sûr, j'étais inscrite à l'école de danse, mais je n'avais jamais eu l'opportunité de danser ce ballet. J'en ai appris que des extraits. Lorsque nous étions sur scène, j'ai rencontré Madame Liu Chuying qui avait dansé ce ballet. Elle a 62 ans aujourd'hui.
Justement, sur scène, vous réunissez trois générations. Elle qui a 62 ans, vous, et puis la génération de celles qui sont nées comme Li Shimin en 1988. Donc, qui n'a pas appris le ballet à l'école. Vous, Li Shimin, c'était quoi votre lien avec cette histoire-là, avec ce ballet ?
Je n'ai pas terminé l'école primaire, donc je n'ai jamais appris le bataillon rouge féminin. La première fois que j'ai entendu parler de ce ballet, c'était en 2014, lorsque Wen Hui faisait déjà des répétitions sur cette pièce.
C'est intéressant votre rencontre aussi, toutes les deux, parce que justement, Li Shimin a arrêté l'école assez tôt pour travailler, pour gagner de l'argent pour sa famille. Et vous, vous êtes rencontrés quand, Li Shimin, vous aviez 16 ans avec Wen Hui. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous êtes rencontrés ?
En 2004,
j'étais dans le Yunnan, dans le sud de la Chine. J'ai rencontré le partenaire de Madame Wenghui. À l'époque, je m'occupais des parents de cette personne.
Après,
j'ai fait la connaissance du partenaire de Madame Wenghui. Je suis restée à Yunnan encore 2 ans avant qu'il m'emmène à Pékin.
Et ensuite, Wenghui, Li Shimin est arrivé, a commencé à travailler dans votre lieu à Pékin. Et à partir de quel moment, puisque justement c'est un lieu très ouvert, pas que pour les danseurs professionnels, à partir de quel moment vous vous êtes dit, tiens, elle va travailler avec nous ?
Je crois que c'est plutôt Shimin qui a pris l'initiative. Parce qu'à l'époque, nous organisions des ateliers auxquels Shimin avait participé, des ateliers sur le corps.
Et
tous les soirs, après le dîner, Shimin s'entraînait dans notre studio. Elle dansait. C'est ainsi qu'en 2012, j'ai proposé à Shimin de représenter cette pièce sur scène avec nous.
Et comme elle ne l'avait pas apprise, vous lui avez donné le petit livre de recherche autour de ce ballet, de son histoire, des entretiens avec les femmes. Et qu'est-ce que ça vous a évoqué, Li Shimin ? Comment vous avez réagi à la lecture de tout ça ?
Avant de participer à ce projet, je n'ai pas participé à la première répétition.
Pendant la deuxième répétition,
que Madame Wenghui m'a proposé d'y participer.
Avant la répétition,
elle m'a envoyé un lien qui donne sur le film du bataillon féminin rouge. J'ai beaucoup aimé ce film. Pour moi, ce film est intéressant dans la mesure que la musique est belle et les mouvements de corps très beaux. Lorsque j'ai lu le livre de témoignages recueillis par Wenghui, j'avais du mal à le comprendre. Par exemple, les mouvements du ballet, je n'y connais rien. Néanmoins, j'ai trouvé des échos. Ce livre m'a fait penser à moi, à mon histoire individuelle. Par exemple, un tableau de l'école. Lorsque j'ai vu ce tableau de l'école, j'ai pensé à une scène qui s'est passée quand j'étais à l'école primaire. Et d'autres scènes, par exemple un couteau très long. Et ça m'a fait penser à mon enfance. C'est ainsi que j'ai accepté de participer à ce projet.
Dans la pièce, à partir de l'évocation donc, du ballet révolutionnaire, chacun parle de sa vie personnelle. Et donc Li Shimin, vous évoquez en effet une scène à l'école où les professeurs vous font comprendre que si vos parents ne peuvent plus payer, il va falloir arrêter l'école. Et puis il y a les témoignages de ces femmes plus âgées qui ont donc dansé à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont très fières, elles étaient très fières à l'époque, et ça leur a permis aussi parfois de s'émanciper un peu. Il y en a une qui raconte que son mari voulait l'interdire d'aller répéter et qu'alors elle avait envie de divorcer parce qu'elle préférait aller répéter le ballet. Est-ce qu'à ce moment-là, ça a été aussi un vecteur d'émancipation pour les femmes ?
Oui, pendant cette période. Pouvoir danser dans le bataillon féminin rouge, c'est une façon d'émancipation. Elles avaient des cheveux courts et tout le monde les reconnaît de leur coupe de cheveux lorsqu'elles se promenaient dans la rue.
Ai, ai, yo, 高高。 好这身材恩爱哎呦我细细的腰儿恩爱哎呦叫声情歌恩爱哎呦且听分明恩爱哎呦妹妹的心中恩爱哎呦只有你那么恩爱哎呦春天到来恩爱哎呦桃花开放
le ballet le bataillon Rouge des femmes, Wen Rui, il a été joué à peu près 3800 fois au Ballet National de Pékin. Il avait disparu après la Révolution culturelle, on ne le jouait plus du tout, et puis il a été rejoué en 2014 pour les 50 ans de la première. Mais il y avait eu une annonce officielle l'an dernier, interdit de parler de cette période. Comment c'est reçu à Pékin quand vous jouez cette pièce, Red, qui interroge toute la mémoire de ce ballet ?
L'année dernière, nous avons représenté cette pièce au Goethe Institute. En effet, nous avons reçu des critiques très bienveillantes, surtout des intellectuels célèbres et ainsi que des journaux célèbres comme Pompeii et Southern Weekend. En réalité, j'ignorais que ces médias étaient présents. Je pense que la jeune génération a envie de voir ce genre de spectacle, de connaître leur histoire, de connaître l'histoire de leur pays.
Et votre démarche, elle est très liée à celle de votre mari, qui est aussi cinéaste, qui fait partie de la première génération de cinéastes documentaristes des années 90 en Chine. C'est ensemble que vous étiez partie à New York dans les années 90. Et vous avez rencontré à New York, entre autres, la danseuse Trisha Brown. Et Pina Bausch, que vous avez rencontrée en Allemagne, qu'est-ce que ça a apporté dans votre travail ?
Oui,
c'était en 95. Je suis allée à son
troupe
pour échanger avec elle. J'ai également assisté à ses répétitions.
Pour Safia Nolin, tout a commencé sur YouTube. Depuis qu'elle a 16 ans, elle commence avec sa guitare à poster des reprises sur Internet. Il y a pas mal de Céline Dion, et puis on avait remarqué la reprise de Lady Gaga, Bad Romance. Elle a la voix puissante, la façon de la poser délicate, à l'endroit juste. Elle se plante là et on n'en ressort pas, on reste dans la voix. Son premier album porte le nom d'un quartier de la ville de Québec, Limoilou, et il ressort aujourd'hui en France. On y entend la solitude, le froid, mais aussi la détermination. Elle puise dans la tristesse de la lumière. Elle vient aussi de poster sur Internet une très belle reprise de Julien Clerc, ma préférence. Je crois qu'on aura la chance de l'entendre à la fin de l'émission. Mais le premier morceau, ce sera « La laideur ».
Allô, je suis Safia Nolin. On est en studio avec Wen Rui, Li Chimin et Florent Tillon. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture, puis on est ensemble jusqu'à minuit. D'escampette, j'ai jamais dit où j'allais. J'ai pris goût à disparaître. Je sais même pas où je m'en vais. Ça peut pas être pire qu'ici. Ici, je mords à petits cris. Ça peut pas être plus mauvais. J'irai là où il fait moins. Ailleurs, j'irai ailleurs.
menti parce qu'au fond j'ai peur. Je sais pas qui je veux être. J'ai peur que quelqu'un me reproche de pas avoir su quoi faire, d'avoir gaspillé ma chance, de m'être noyé dans ce monde immense, d'avoir pris la solution la plus proche de la déception. Je m'en vais toute seule, sans peur, j'avance sans peur. Ailleurs, j'irai ailleurs, mais j'ai menti parce qu'au fond, j'ai peur.
Je m'appelle Sifan et là on est dans une très belle maison de thé à Taipei qui s'appelle Wistaria Tea House, qui se trouve dans une maison traditionnelle japonaise en plein cœur de Taipei à côté d'un parc qui s'appelle Da'an Park.
Il fait un petit peu moins chaud qu'à l'extérieur.
Oui, il fait beaucoup moins chaud qu'à l'extérieur. Il va pleuvoir là très vite, je pense. Le temps est un peu lourd.
Sifan Chao a commencé enfant par la danse traditionnelle en Chine. Sa mère l'avait inscrit à un cours. Il était un des seuls garçons. Et puis enfant, il déménage en France, oublie le théâtre, la priorité c'est d'apprendre le français qu'il ne connaissait pas. Il n'est pas très à l'aise sur scène, concentré sur la langue. Jusqu'à ce qu'un jour, un stage avec le metteur en scène Anatoly Vassiliev le libère. Il suit la classe libre du cours Florent à Paris et décide de repartir en Chine, faire du théâtre à Pékin, traduire Molière ou Feydeau. Cet été, il était à Taipei et il relisait la traduction qu'il vient de terminer de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, où le fils retourne dans sa famille annoncer sa mort prochaine. Et il se rappelait que cela faisait 7 ans qu'il était rentré chez lui en Chine.
À ce moment-là, je trouve que le théâtre était vraiment en plein développement en Chine. De plus en plus de gens s'intéressent au théâtre. Je me dis, c'est là que je dois être, parce que d'abord je suis chinois, mais en même temps, de par mon expérience en France, ça faisait à ce moment-là 17 ans que je vivais déjà en France, je me sentais complètement français, mais de connaître ces deux cultures-là et de peut-être d'amener une autre possibilité, un autre théâtre au public chinois, pour moi ça prenait beaucoup de sens et j'avais envie de ça, et pour moi c'était presque une mission plus importante que juste être comédien en France et de courir. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus fort qui m'attirait.
Vous êtes en train de traduire « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce. C'est quoi la difficulté? Parce que Jean-Luc Lagarce, c'est une parole très orale. Enfin, il y a beaucoup d'oralité, d'hésitation, de reprise. Donc c'est une langue très particulière. Est-ce que c'est facile de le transposer en chinois?
C'est super difficile, mais je pense que c'est une langue profondément française. Cette façon de parler, cette oralité-là, ces répétitions, ces reprises, ces sauts de pensée, ces... tout ça, pour moi, c'est très français. Donc c'est difficile de traduire ça dans la langue chinoise parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes orales. On n'a pas cette façon de répéter, de chercher encore le mot le plus juste pour s'exprimer. En Chine, on n'a pas ça. Mais en même temps, c'est... j'ai envie de garder ça, pour l'instant, en tout cas, dans la traduction. Je me dis, la langue évolue, la langue vit, elle n'est jamais fixée. Dans chaque langue, la langue japonaise, la langue chinoise, il y a toujours des apports d'autres langues dans cette langue-là. Donc ça ne me fait pas peur. En fait, dans la traduction, qu'on garde quelque chose de... qui n'est pas encore chinois. En fait, la plus grande difficulté, pour moi, c'est que le public chinois puisse comprendre que c'est une langue courante, c'est une langue quotidienne, et pas une langue formelle.
Vous le connaîtriez, un petit passage au début de la pièce en français et en chinois?
Je ne connais pas par cœur, mais j'ai dans mon portable.
后来，我就这样离开了，再也没有回去。 几个月以后我死了，最多一年。我还记得一件事，我再讲给你们听，然后我就结束了。那是一个夏天，就在我一直没回家的那几年，在法国南部，在一个夜晚，我在山里面迷路了。这是对。
Ça, c'est l'épilogue.
L'épilogue de Louis.
Jean-Luc Lagarce, même s'il y a beaucoup de non-dits, son histoire est très liée aux années 80-90, au sida, à l'homosexualité. Est-ce que ça, c'est des thèmes qui sont facilement abordables en Chine?
Dans la pièce, Lagarce ne nomme jamais le nom de cette maladie. On sait. Le thème qui m'intéresse, cette histoire dans Juste à la fin du monde, c'est ce fils qui est parti... qui décide un jour de revenir pour annoncer sa mort, ils disent des choses peut-être auxquelles ils ne pensent pas, et ils ne disent pas les choses auxquelles ils pensent. Et tout ça, c'est très chinois aussi. C'est profondément chinois, j'ai envie de dire. Pour nous, en Chine, par exemple, le père a un rôle très important dans la structure familiale. Mais quand le père n'est plus là, c'est le fils aîné qui prend le relais. Mais quand le fils aîné n'est pas là, dans ce cas-là, cette famille peut devenir un château de sable. Et surtout, alors maintenant, avec la Chine, donc l'exode, l'urbanisation de la Chine, donc tous ces jeunes qui partent dans des grandes villes et qui finalement ne veulent pas revenir parce que du coup, ils ont des valeurs complètement différentes, ils s'intéressent à d'autres choses, donc ils n'ont plus rien à se dire finalement. Alors, en parlant de la communauté homosexuelle, forcément, très souvent, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller vivre leur vie dans des grandes villes et à chaque fois de revenir dans la famille, c'est de jouer un rôle, un autre rôle, mais ce n'est plus eux. Non, c'est très pénible. Très souvent, c'est ce qu'on voit en Chine aussi, ce que je vois autour de moi. C'est ça que j'ai envie de montrer, en fait, ce réel-là. Par exemple, j'ai des amis chinois qui me disent que je parle beaucoup. Et ça, c'est très français. Et que je parle beaucoup, je m'intéresse un peu. C'est-à-dire que je râle, je parle de tout. C'est-à-dire tous les sujets de société, tout ce que je vois dans la rue, j'ai envie de démettre mon avis. Ça, les Chinois ne le feraient pas spontanément. Et on dit, mais ça ne nous concerne pas. Pourquoi tu t'énerves pour ça? Ça ne te regarde pas. En même temps, je me plains en chinois, mais c'est très français.
On entendait la voix du jeune metteur en scène Sifan Shao, qui parlait du réel dont il a envie de parler justement avec la pièce de Jean-Luc Lagarce, mais du réel de jeunes gens vivant en Chine. Vous, votre démarche, elle est très documentaire, Wen Rui, depuis le début. Est-ce que vous avez l'impression que dans la jeune génération des artistes chinois, il y a cette volonté-là aussi de se mettre à travailler sur son histoire, l'histoire de la Chine, mais aussi l'histoire personnelle? Est-ce qu'il y a une démarche documentaire qui est présente pour travailler sur le réel?
À
mon avis, beaucoup de jeunes artistes chinois font un travail de narration, font un travail documentaire. Par exemple, Mademoiselle Li, ici présente, elle réalise des documentaires. Elle recueille des témoignages sur l'histoire. Notre Living Dance Studio a aussi une équipe qui réalise des documentaires. Par exemple, Zhou Xueping. Nous avons beaucoup de jeunes qui s'intéressent au travail documentaire.
Et Li Ximin, c'est quoi les sujets que vous avez envie d'aborder en documentaire?
À partir de 2011,
j'ai appris à manipuler la caméra et je me suis retournée à mon village d'origine. Cela faisait longtemps que je n'y suis pas retournée. J'avais un thème. J'ai participé à un projet, la mémoire du folklore. J'ai interviewé des personnes âgées dans mon village.
J'avais
posé des questions. Sur la période de grande famine, notamment entre 59 et 61. C'était une période historique dont j'ignorais presque tout avant ces interviews. J'ai emprunté une caméra à Zhou Xueping et je me suis retournée à mon village d'origine.
Il m'avait
appris à manipuler la caméra, comment l'allumer, comment l'éteindre, quelle sorte de questions à poser à ces personnes âgées, que des questions simples. J'étais passionnée par ce projet. C'était la première fois que je réalisais un travail pareil.
Lorsque j'avais la caméra
dans les mains,
les personnes âgées
ne savaient pas ce que c'était une caméra. Pour eux, c'était un appareil photo.
Et
à chaque interview, je leur pose une question. Ils parlent et parlent. Ils commencent avec leur enfance et ne s'arrêtent pas pendant 3 ou 4 heures. C'était passionnant. C'était la première fois que j'ai appris l'histoire de cette période.
On est là aujourd'hui. On est dans des réunions super sympas, où il y a du parti de gauche, du front de gauche, du rien du tout, du catholique, des associations humanitaires. On est un groupe de tout ça, des pas du tout de casquettes, des encartés, des pas encartés. On voit des coups, on mange, on partage le repas et on échange les idées. On se passe des films, on se passe des bouquins, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que les intellos qui se réunissent, que ça bouge partout, parce que dans ma famille, j'ai des sacrés soucis en ce moment. On se demande, mais qu'est-ce qui leur prend, ces deux cons là, d'aller manifester à Notre-Dame-des-Landes, et puis d'être dans des réunions politiques maintenant. Mais où, qu'est-ce que vous foutez ce week-end? On a arrêté des trucs parce qu'on n'était plus en accord avec ce qu'on faisait. Pourquoi on s'est fédérés? Parce qu'il y a eu des choses locales, parce qu'il y a des choses qui nous interpellent, parce qu'on sent que ce monde-là, il ne va plus, on est au bout. Je pense que notre premier travail en ce moment, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de mettre en réseau toutes ces luttes qui ont le même sens, qui veulent dire la même chose, même si on n'aspire pas tous à la même, au même monde et aux mêmes, toutes les mêmes valeurs. Mais les valeurs communes, elles sont là, et c'est pour ça qu'on est là. Et il y a un an, je ne serais pas venue, quand j'ai vu Machin Révolutionnaire, je ne serais pas venue à ce genre de débat. On est là aujourd'hui, donc on est témoins. Je voulais dire qu'on est témoins qu'il se passe des choses et qu'il faut qu'on, voilà, qu'on se relève les manches et qu'on y aille. On n'est pas dans la victoire. Il y a du boulot avant. Voilà.
Mmh.
On est là aujourd'hui, on est témoin qu'il se passe quelque chose. C'est un extrait du film Mesa Guerrillera. Florent Tillon filme quatre personnages quittant le plateau des Mille Vaches pour aller ailleurs en France, capter le pouls révolutionnaire, le potentiel, les amis, la nouvelle fraternité possible. Florent Tillon, quand vous présentez le film, vous dites « je vais chercher le contraire des passions tristes ». Pourquoi cette nécessité ?
Eh ben voilà, c'est ça, c'est appliquer Spinoza, lire Spinoza, appliquer Spinoza, c'est pas la même chose. Et appliquer Spinoza, effectivement, c'est essayer en soi-même, d'abord, et aussi chez les autres, d'essayer de faire le contraire des passions tristes, parce que d'après Spinoza, les passions tristes n'est que la pente qui mène vers l'abysse, en fait, et la destruction. Enfin, ouais, ou vers le fascisme aussi, vers tout ce qui peut être destruction, en fait, quoi. Obscurantisme aussi. Quand on est dans une passion triste, c'est qu'on exploite sa tristesse, quoi. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est d'arrêter de courir après la catastrophe pour son gargarisme, tu vois, pour le vendre, etc., etc. Il faut essayer d'aller au-delà des catastrophes et commencer à... Ouais, moi, j'ai un ami qui dit « il est trop tard pour être pessimiste ». Voilà. Donc, quand on dit « il est trop tard pour être pessimiste », il faut chasser et lutter contre les passions tristes.
C'est déjà ce que vous faisiez dans un précédent film dont on avait parlé, sur Détroit, parce que là, c'était un territoire un territoire abandonné, une ville, mais où vous alliez filmer les collectifs qui s'y formaient, les initiatives qui reprenaient justement l'espace et le pouvoir. Là, vous êtes allé en France et vous avez été voir dans ces lieux justement occupés ou abandonnés. Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi vous vous êtes dit « Tiens, il se passe quelque chose en France, là ?» Parce qu'avant, vous étiez à l'étranger.
En fait, quand on était à Détroit, on s'est dit « Merde, ça correspond à vraiment quelque chose qui nous paraît juste, en fait, d'aller dans les ruines, d'habiter les ruines, et comme ça, se défaire aussi de toute une logique du XXe siècle, industrielle, politique utopique, étatique, etc. etc. Et voilà, dans les endroits de destruction où ça a été détruit, au moins, on est entre nous, quoi. Et du coup, là, on peut repartir un peu comme des Indiens à faire nos propres... Et on se disait, mais on va pas habiter là, à Détroit, parce que c'est quand même... Enfin, voilà, on a hésité à un moment donné, puis on s'est dit, non, on va pas faire ça, on va retourner en France, et on va chercher en France des endroits comme ça. Et les endroits comme ça, c'est beaucoup la campagne, par exemple, en France, ou la diagonale du vide. Et effectivement, là, il y a plein de ruines. Et on s'est dit, bon, ben, on va aller habiter dans les ruines, mais on est allé d'abord dans une région qui nous a pas... Où c'était vraiment les ruines, et pas... Parce qu'il y a des ruines qui sont habitées ou des hypercentres qui ne le sont pas. Pour moi, certains hypercentres en France ne sont pas habités. Il y a du passage, mais c'est pas habité. Alors qu'il y a des ruines avec peu de gens, mais qui sont habitées.
On sent qu'il y a des choses qui se passent. Et à quoi on reconnaît un lieu habité ?
Eh bien, parce que les gens se connaissent, tout simplement, déjà. Je pense que c'est une des premières... Les gens se connaissent vraiment, ouais. Et quand on est allé sur le plateau de Mille Vaches, là, ça a été une évidence. C'était, en fait, exactement ce qu'on cherchait. Et de fait, le film sur Détroit a vraiment beaucoup plu aux habitants du plateau de Mille Vaches. Il y avait comme une concordance, quoi. Voilà, puis il y a une autre phrase qui est belle, qui est « Nous n'aimons pas les ruines, mais les chemins qui les traversent ». C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien dans les ruines, c'est que tout est recommencé aussi, donc c'est plus intéressant. Voilà, c'est pour ça les ruines. Le lien avec Détroit, il est direct, en fait.
Et dans le film, il y a aussi des scènes assez oniriques. Pourquoi vous aviez envie aussi de cette liberté, de cette ouverture vers... la nuit, il y a des animaux qui passent, qui sont dessinés, il y a aussi tout un imaginaire.
Ouais, parce qu'on voulait, libérer le langage aussi, cinématographique, un peu comme une idée qui nous passait par la tête, la réaliser, et même si on se prenait après des gens qui nous disaient que le film n'était pas assez homogène, justement. Il y avait vraiment cette idée de voilà des rencontres aussi. Il y a beaucoup d'invités aussi dans ce film. J'avais fait une petite liste là pour pas les oublier parce qu'il y a il y a Bernard Combi au début qui est un chaman occitan. Ensuite il y a un autre groupe rock un peu transcendantal qui s'appelle Rien Virgule. Celui qui fait les dessins c'est Ronald Grampé. Et lui justement c'était une rencontre sur le plateau et j'aimais beaucoup ses dessins. On avait fait quelques graphes d'animaux déjà pour un petit travail ensemble dans les ruines. Et du coup ces animaux s'animent. Voilà c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand on n'est plus soumis à une idéologie un peu molaire, comme ça, un peu universaliste, et qu'on se laisse aller à tout ce qui est possible. Les animaux reviennent, mais aussi les esprits, les fantômes, les arbres, l'esprit des arbres, etc. C'est ça qui est passionnant aussi dans les endroits comme la ZAD, ou les endroits, ou même en ville, on peut aussi avoir ce genre de délire, quoi.
D'ailleurs, il y a des espaces qui sont en contraste comme ça, puisque bah, y a la forêt, ça commence par la forêt, habiter la forêt, et puis un peu plus tard on se retrouvera justement à la Défense ou dans le métro parisien, un peu avec cette question comment on habite justement ces lieux-là aussi.
Bah oui, c'est très contrasté. Après, c'est très subjectif hein, aussi, je tiens à souligner quand même, c'est un mouvement très hétérogène. Là, à la ZAD par exemple, ça, on commence à dire qu'il y a la ZAD de l'Est et la ZAD de l'Ouest, hein, pour pas dire droite et gauche, essayons de ne pas reproduire non plus ce genre de truc, mais il y a vraiment des mouvements très très contradictoires presque, et ça veut dire que ce film, c'est une subjectivité aussi, une subjectivité qui effectivement, moi personnellement, je me méfie des villes, ouais. Et plus j'apprends l'histoire des villes, plus je vais dans, je bouffe vraiment beaucoup de documentation sur la ville. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus en fait, donc j'ai le temps de s'y mettre aussi vraiment dans l'histoire profonde jusqu'à il y a 5000 ans, jusqu'à leur apparition. Et en fait, pour moi, c'est comme 5000 ans de ruines justement, mais ruines de violence quoi. Pour moi, la ville, c'est de la domination des territoires. J'ai du mal à me sortir en fait. Plus j'apprends sur les villes, moins j'ai du mal à les considérer comme impossibles. Enfin, comme impossible émancipateur, quoi. Mais c'est subjectif.
On va écouter un autre extrait du film, Mesa Guerrillera. Et là, on est dans la ZAD.
Et tu le vis pas comme un emprisonnement ?
Non, pas du tout. En fait, je me sens moins enfermé presque qu'à Paris. Mais ça, c'est plus, finalement, dans le plaisir que j'ai à vivre ici. Je pense que ça, c'est des choses assez difficiles à définir, à décrire. Simplement, ici, il y a plein de moments où je me suis dit que j'étais heureux, alors que c'est une question que je me pose jamais d'habitude.
Tu préfères ici ou Paris ?
Je préfère vivre ici, sans hésitation en fait. Sans réfléchir, c'est ce que je dis.
Ouais, et puis il y en a pas mal qui, même sans souci avec la justice, ouais, sortent pas de la zone.
C'est vrai.
C'est le tout début d'une séquence, Florentillon dans la ZAD. Un jeune homme qui est caché en fait dans cet endroit-là, qui est parti pour pas aller au tribunal. C'est aussi, comme on l'entend au tout début, une réflexion sur le bonheur. Est-ce que tu es heureux d'être là ? Dans quel endroit on est heureux de vivre ? C'est une question qui revient tout le temps dans le film.
Alors c'est très intéressant effectivement, parce que quand on est dans un territoire qui se libère face à une victoire, finalement une des rares victoires contre la police qui a eu lieu avec Notre-Dame-des-Landes, une réoccupation immédiate avec des milliers de personnes qui viennent de partout, enfin un truc très euphorique, évidemment là d'après on est heureux pendant un moment. Mais après, ça se construit, et puis les villages se construisent, les conflits aussi, comment on fait de la politique, enfin, plus de la politique, en fait, puisque c'est plus lié à une ville, à la police, mais comment on s'organise, en fait, ensemble, etc. Et là, c'est ça que j'ai envie de dire aussi, ça tombe bien, c'est que, contrairement au communisme du XXe siècle, qui était très utopique, très programmatique, ça, c'est plutôt un mouvement qui n'a pas de programme, en fait, ni de parti, en fait, ni de héros. Et du coup, il n'y a pas de grand soir, non plus, enfin... Ça dépend, encore une fois, c'est très subjectif ce que je vais dire, hein, mais parce que c'est en mouvement. Mais il y a des gens qui pensent encore qu'on peut destituer le pouvoir par un coup d'insurrection et tout ça, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que c'est pas lié à un grand soir, à un lendemain qui chante. Et du coup, voilà, on veut construire quelque chose à la ZAD, mais voilà, avec le temps, forcément, ça va pas susciter une euphorie post-victoire, par exemple, contre la police, ça va susciter autre chose. Et ça, c'est ce que j'ai envie de travailler aussi, c'est-à-dire cet état de mélancolie nécessaire à un combat social et spirituel, en fait, qui va se dérouler sur des siècles, en fait, là, maintenant. On va vivre un long moment d'effondrement un peu généralisé de la civilisation, et dans ces ruines-là, je pense qu'il ne faut pas attendre un grand soir, mais plutôt prendre soin les uns des autres, travailler des résiliences, et ça, c'est aussi travailler la mélancolie, quoi. Mais sans faire les passions tristes, tu vois, c'est la différence entre les mélancolies et les passions tristes, une très nette différence.
Il y a beaucoup de phrases qu'on retient dans le film. Parfois, par exemple, rarement le futur fut aussi inconnu, mais aussi réfléchir à comment s'organiser ensemble au cas où.
Au cas où, de tous les cas. Ça peut très bien être un coup d'état fasciste, que ça peut arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à partir au Mexique, par exemple, autant qu'on est, les fichiers S, etc. Ça veut dire une destitution du pouvoir. Ah oui, mais alors, qu'est-ce que ça va être comme chaos? Ou ça veut dire tout simplement un effondrement social et civilisationnel dû aussi à un effondrement écologique? Il faut se préparer à tout, en fait, aujourd'hui.
Et vous, ça vous a rendu heureux là, de parcourir ces lieux-là en France?
Oui, bien sûr, hein, totalement, oui. Oui, très très heureux.
Pourquoi ça vous a rendu quoi?
Ben, parce que j'ai l'impression qu'il se passait quelque chose, comme vous dites. Je sais pas, moi j'ai aussi vécu, comme beaucoup de ma génération, dans les années 80-90, on nous racontait une histoire où il y avait une espèce d'envie de révolution un peu globale, un peu internationale, où tout le monde s'y mettait, les homosexuels, les indiens, les autochtones, les rouges, il y avait de tout le monde se disait « non mais en fait c'est pas possible de continuer comme ça ». Et puis il y a eu d'autres trucs, Reagan, Thatcher, maintenant Macron, etc., etc., qui sont la contre-révolution des années 80, dans laquelle nous on a baigné. Et quand on voit aujourd'hui que, y compris nous, mais y compris une nouvelle génération, là il y a des gens qui ont été jugés, qui ont pris 5 ans de prison pour une voiture de police qui a été brûlée, sur un storytelling complètement fallacieux, enfin c'est incroyable quoi, la période qu'on vit à la fois de tension avec la police, mais aussi d'émancipation au niveau de la pensée, de la construction, du faire en fait.
Wen Rui, vous avez... travailler pas seulement avec des danseurs, mais par exemple en 2011 pour la pièce Dance with Farm Workers, vous avez travaillé avec des paysans que vous avez confrontés à des danseurs. Qu'est-ce que ça a apporté cette confrontation-là? Pourquoi les apporter dans... Pourquoi les amener sur le plateau de danse?
C'était
en 2000, la Chine était... Pékin était devenue ville candidate pour les JO de 2008. Alors la Chine a commencé, Pékin a commencé des grands travaux de construction et il y avait, du jour au lendemain, il y avait beaucoup de travailleurs migrants travaillant sur les chantiers à Pékin. Et les habitants de Pékin y voyaient d'un mauvais œil. Ils n'aimaient pas ces gens originaires de la campagne. Et les habitants de Pékin voulaient les tenir à l'écart. Et l'idée m'était venue simplement. Je me suis dit qu'un jour, nous allons faire de ces travailleurs migrants une star sur scène pour qu'on les voit vraiment comme tels qu'ils sont. Mais à réflexion, c'était une idée plutôt naïve. En réalité, nos artistes veulent changer, réformer l'histoire, mais c'est une mission impossible. Nous avons dansé avec des travailleurs migrants, certes, mais une fois le spectacle achevé, ils sont retournés sur leur chantier. Rien n'a changé pour eux.
Wen Rui, vous avez beaucoup travaillé aussi sur la question de la condition de la femme. Vous avez fait un spectacle où des femmes de catégories sociales différentes racontaient leur vie, racontaient leurs accouchements. Le fait de travailler, par exemple, avec Lee Shimin, qui est une autre génération, est-ce que vous avez l'impression que ça avance, que les choses avancent par rapport à votre génération, que les femmes s'émancipent, prennent la parole?
On peut apporter cette question à partir d'angles différents. La jeune génération d'aujourd'hui, les jeunes femmes, elles sont libres de penser, elles sont libres de travailler. Elles peuvent avoir plusieurs copains.
En même temps?
Mais oui, je viens de voir une vidéo. On pose des questions aux jeunes femmes chinoises. Quel est ton rêve? Une femme a répondu, je voudrais avoir plusieurs copains en même temps. À mon avis, l'idée même de désirer plusieurs hommes en même temps, c'est une avancée.
Parce que
avant, les femmes chinoises n'osaient pas penser à avoir plusieurs partenaires en même temps. Un homme peut se marier avec plusieurs femmes, même un nombre illimité de femmes. Sur le plan social, les femmes n'occupent toujours pas une place équivalente aux hommes, une place aussi importante qu'aux hommes. Regardez l'assemblée parlementaire, 80 ou 90% des participants sont des hommes. Même si une femme est brillante, elle ne peut pas occuper la place suprême.
On va écouter un nouveau morceau par Safia Nolin, qui est toujours en studio avec nous. Et c'est un peu un cadeau parce que c'est la reprise de Ma préférence de Julien Clerc, et je crois que c'est la première fois qu'elle le fait en live.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, c'est à ma différence qui est sa défense. Vous faites sous votre force, et quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence. Je sais sa défaillance, je le sais. On ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid ses regards. Ne regarde que moi, et par hasard, elle aime mon incertitude, et par hasard, j'aime sa solitude. Je sais quand elle a froid ses regards. Ne regarde que moi, et par hasard, elle aime mon incertitude, et par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi, ma préférence à moi.
Partie de l'histoire dont on est témoin mais qui ne se raconte pas. On aura mis en mouvement les corps par la parole, réoccupé des lieux abandonnés. On aura dit « rarement le futur fut aussi inconnu ». Mais aussi, on va réfléchir à comment s'organiser ensemble au cas où. Wen Rui, le spectacle Red se joue du 27 au 30 septembre au Théâtre des Abbesses dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Florent Tillon, le film Messa Guerrillera sera projeté à la Gaîté Lyrique à Paris le 27 septembre et à Lille au cinéma L'Univers le 1er octobre. Safia Nolin, son album Limoilou ressort en France. Elle sera en concert le 12 octobre à Lyon, le 19 à Paris, aux Trois Baudets. Avant la nuit, je dis merci à Chen Chen Wang pour la traduction ce soir. Merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Nadège Antonini et Jean-Michel Bernot. Vous écoutez France Culture. Comment on dit Wenhui en chinois ?
现在是深夜, 您收听的是法国文化台.
Il est minuit, vous écoutez France Culture. C'est déjà demain, c'est l'heure des nuits.